Georges Baume. Toutou. Chapitre 1. J'avais 14 ans lorsque mon père vint de Ganges, situé au cœur des Cévennes, s'établir à Béziers, marchand de grains. Il me mit au pensionnat des frères, un pensionnat paré de jardins où je me trouvais mieux qu'à la maison, car mon père me grondait pour des vétilles. Ma mère ne savait que se soumettre devant les cris de ce Cévenol qui en imposait par sa haute carrure, par sa face rousse de Gaulois aux moustaches tombantes, aux grands yeux jaunes. Que de taloches j'ai reçues! Je tremblais du matin au soir à la maison. Comment, à mon âge d'insouciance, aurais-je pu comprendre que les éclats de brutalité de mon père ne provenaient que de la vigueur trop pleine de sa nature ou des tracas que lui procurait son commerce? Pourtant, je l'aimais beaucoup. J'étais heureux de le voir exubérant, bavard, les jours de fortune qui éclairaient la maison. J'oubliais ses coups et ses menaces dès qu'il m'offrait une partie de plaisir, une promenade en voiture, par exemple. En effet, pour aller aux environs recruter la clientèle, il avait acheté une voiture légère, si jolie avec sa caisse noire au liseré rouge, ses fines roues aux rayons rouges. Il avait acheté un cheval jeune, nerveux, qui courait comme le vent, notre Toutou. Depuis l'automne que nous habitions Béziers, j'avais parcouru les villages que le vin a enrichis. Mais je ne connaissais pas la mer, cette mer si prochaine, dont j'entendais louer à l'envi les beautés et les prouesses. Mon père, du sommet du plateau des poètes, sur lequel la ville est bâtie, me la désignait souvent, les jours limpides, là-bas, après la plaine couverte de ceps de vigne et de luzerne. Les beaux jours arrivant enfin, il me dit « Octave, si tu travailles à ma satisfaction, je te conduirai à la mer un jeudi. » Je m'appliquai de mon mieux en classe. Le directeur du pensionnat fit tant d'éloges sur mon compte que mon père, le premier jeudi de juin, tint sa promesse. Nous partîmes avant l'aube. Mon père et son ami Rouquier, un flâneur bonasse à coups de taureau qui vivotait de son métier de commissionnaire en vin, s'installèrent sur la première banquette de la voiture, tandis qu'à l'arrière, je maintenais à côté de moi le panier des provisions et les deux sacs de chasse. Ils parlaient avec enthousiasme, leurs fusils entre les jambes, des cailles nombreuses qu'on allait tuer, en cette région de dunes où elles se reposent, à leur venue d'Afrique, parmi les joncs et les tamaris. Ils ne prêtaient aucune attention aux féeries d'ombre et de lumière qui se succédaient autour de nous. Les brumes de la nuit flottaient encore, épaisses, sur les rares bosquets et les granges opulentes. La brise soufflait par intervalles dans le paysage plat. Nous étions seuls. Sous les platanes enduits de poussière, le long du canal endormi, la route traçait une raie blanche. Nous prîmes, à droite, un chemin obliquant bientôt vers la gauche, loin de toute humanité. Le ciel, d'un bout à l'autre de l'horizon, déroulait devant nous une écharpe d'argent qui effleurait la terre, c'était le rivage. J'étais si impatient de la voir que je me levai brusquement au risque de tomber. Autour de nous, la pénombre enveloppée des roseaux et des fougères. « Père, demandai-je, est-ce la mer ? Assieds-toi, nous avons le temps. » Nous allions droit vers le soleil. Tel qu'une grosse pierre qu'on jette dans l'eau, il faisait dans le ciel des éclaboussures rouges. Toutou, notre cheval, trottait. Le fresquet de l'aube l'émoustillait lui aussi. Il enlevait prestement la voiture, dont les roues fines roulaient dans les ornières peu sonores. Nous avions dépassé les tubes volcaniques de Vias, qui marquent les limites de l'ancien rivage et où se trouvent des vestiges de la voie romaine. Nous avions atteint le hameau de Portirague, rustique oasis isolée au milieu de plantureux vignobles. La lande nous reprit, infinie et déserte. Le soleil venait à nous. Dépouillé de ses nuages, il se présentait nu dans sa gloire, chargé de tant de feu que ses lueurs confondaient les choses de la terre. Le ciel découvrait ses abîmes, ses vallons éclatants de blancheur, ses nuées qui se dissipaient au souffle plus âpre de la brise. Je n'avais jamais assisté d'aussi près au spectacle de la nature reprenant vie et conscience. C'était une révélation. Mon âme d'enfant tressaillit au contact de l'âme éparse du monde, à l'émotion de l'infini, dont je sentis passer en moi la laine féconde, comme dans les feuillages le vent qui se dérobe. Petit, s'écria mon père, regarde la mer. La mer, je n'avais pas vu, au loin, remuer l'onde blanche qui baignait le sable aux lueurs glauques de métal. Bientôt, elle blêmit, plus proche, tandis qu'elle fumait là-bas, sous l'incendie du soleil. Partout, la création ressuscitait. Le royaume farouche des joncs et des tamaris, les vignobles teints de rose, et derrière nous, au fond de la plaine, les collines souriantes. J'étais très ému. Mon père et Rouquier se félicitaient du temps favorable à la chasse. Peu leur importait, à eux, l'aurore, qui donnait à la mer comme au ciel un azur étoilé. Le soleil, maintenant plus haut que nos Cévennes, traçait dans l'espace un chemin doré, mettait sur les eaux toujours en mouvement un sillage de pourpre. Je me souviens qu'alors, à cette heure de renouveau et de recueillement, s'éveilla en moi l'amour pieux du monde, des apparences dont il se revêt, la tentation de rendre, pour le plaisir de mes yeux et de mon cœur, l'image diverse et le drame éternel de la nature qui manifeste les émotions de son être par le jeu des clartés et des ombres. C'est depuis, je m'en souviens avec une certitude absolue, que je rêvais de peindre, de fixer avec des couleurs les beautés de forme et la vie que le soleil répand dans les paysages. « Hé, petit !» m'interpella mon père, « à quoi songes-tu ? Il faut descendre !» Toutou s'était arrêté dans les dunes profondes où il venait de s'engager. Nous descendîmes afin de l'aider en poussant aux roues. Il nous fallut une demi-heure pour parcourir 1 kilomètre et atteindre le bord de la mer. Chapitre 2. Là se dressaient les ruines d'un de ces forts que Vauban a échelonnés le long de la côte languedocienne. Ces épaisses murailles, élevées sur des roches volcaniques qui émergent parmi les sables, étaient presque entièrement garnies de leurs créneaux intacts. Impossible néanmoins d'y établir notre campement à cause des souillures que la mer y dépose et des broussailles que le printemps y pousse. On s'installa dans le voisinage. Toutou, une fois dévêtu, se coucha à l'ombre de la voiture. À peine avions-nous achevé notre installation qu'un vieux matelot, la face rouge sous son béret, se présenta sans façon. D'où diable sortait-il? Si la mer ne m'eût attiré, j'aurais bien remarqué après les dunes, au milieu de quelques cèpes, la cabane de bois qu'un figuier s'efforçait de protéger de son maigre feuillage. « Bonjour, vous, » dit-il. « Alors, comme ça, vous venez passer la journée à la mer ?»« Oui, » lui répondit mon père, « nous allons chasser. »« L'écaille ne manque pas. Seulement, je vous demande si vous ne voudriez pas emporter ce soir, à la ville, un bon poisson frais. » Rouquier, à l'idée de la gourmandise, souriait. Après un silence, mon père dit au matelot, « Eh bien, ce soir, nous emporterons de quoi faire une bouillabaisse. » Puis, se tournant vers moi, il ajouta « Octave, nous partons. Tu pourras contempler la Méditerranée à ton aise. Tu n'auras qu'à soigner le cheval. Soigne-le, tu entends ?»«
Oui. » »«
Surveille-le bien. Il est jeune. Je compte sur toi. » »«
Tu peux partir tranquille. »
Je fus soulagé, ma foi, de voir s'éloigner les deux amis qui gesticulaient en allongeant leurs jambes, le fusil sur l'épaule, le sac au dos. Le vieux matelot s'éloignait aussi vers sa barque noire, couchée sur le rivage de telle sorte qu'un filet séchait le long de son flanc. Cet homme m'intéressa quelques minutes. Après avoir retroussé son pantalon au-dessus des genoux, il tira la barque, dont un bout trempait déjà dans le flot. Puis, tandis qu'elle sautait comme une balançoire, il y pénétra d'un bond, saisit les rames et, à force de bras, chemina vivement vers la mer qui remuait toujours. J'étais seul. Le calme de ce désert m'impressionnait. Je n'avais pas peur, non. Même, je me sentais en sécurité auprès de la mer qui semblait me parler. Ces plages n'offrent aucun danger. Les bancs de sable s'enfoncent doucement sous l'eau, en pente progressive. D'ailleurs, mon père m'avait défendu de me baigner et vous pensez que je n'aurais pas désobéi à ce maître terrible. La mer s'est penchée, paresseuse, sur le sable rose, aux grains aussi menus que des étincelles. Au milieu d'un grondement pareil à celui d'orgue colossal, je distinguais le murmure des vagues se brisant à mes pieds avec un froissement d'étoffe. Partout, sur le rivage, des vagues semblables qui dessinaient des lignes d'argent, et le refrain joli, aussi simple que le chant de nos pâtres dans les montagnes, me troublait. Leur murmure devenait une plainte. Il provoquait en moi un sentiment de tristesse et de pitié, comme si j'eusse pensé à la mort. Et j'y pensais. Et le soleil magnifique régnait dans l'espace, sur les eaux, qui avaient un éclat d'immenses boucliers. J'observais alentour des coquillages de menues étoiles. J'en examinais quelques-uns. En revenant vers les ruines du fort, je surpris Toutou qui se roulait avec bonheur sur le sable. Je l'avais trop négligé, mon Toutou. Allons, un picotin d'avoine, puis un seau d'eau. Toutou me parut ensuite si content, si dispos, que l'idée me vint d'aller avec lui à l'aventure. Donc, sans réfléchir davantage, j'enfourchai le jeune cheval qui m'aimait comme un frère. Je riais déjà, ignorant que j'étais du caprice des bêtes. De lui-même, il s'avança vers le rivage, fit quelques pas paisibles sur le sable mouillé. Mais je ne sais si l'air des embruns le grisa, ou si ce fut la gaieté de cheminer sans attache au pur soleil, le fait est qu'il se mit à hennir en agitant la crinière, et il trotta, bien gentiment d'abord, en regardant les vagues. Je riais de plus belle. N'étais-je pas mon maître? N'avais-je pas à mon gré la jouissance du monde et de la vie? Toutou caracolait avec de brusques hardiesses. J'essayai de le calmer. Au contraire, il trotta plus vite. Il partit au galop en me secouant si fort que je tâchai de l'interrompre. Mon désarroi alors l'effraya-t-il? Eut-il conscience de ma faiblesse? En tout cas, l'épouvante me saisit. Je criai éperdu, comme si dans cette solitude quelqu'un eût pu m'entendre. En tirant sur la longe, j'excitai la bête qui hennissait, galopait toujours, dans l'ivresse de sa force libre. Elle bondit, accéléra sa course. Et moi, hélas, dans cette escapade vertigineuse, je perdis l'équilibre et tombai d'une masse sur le sable. Mon Toutou, allégé, courut à travers les dunes, à travers les tamaris, avec un emportement sauvage. Je le vis bientôt n'être plus qu'un point noir dans la lumière éblouissante et disparaître. Ah, mon Dieu! Tout penaud, meurtri de ma chute, j'examinais stupidement la plage rose et nue. À présent, je me trouvais vraiment seul. Toutou s'était sauvé du côté de Béziers. Saurait-il rejoindre la route? Non, certes, elle se cachait trop au milieu de la plaine, parmi les verdures. On nous le volerait sûrement, ce Toutou que mon père estimait tant, puisqu'il avait coûté cher. Ah, quel malheur! Mon Dieu, que j'étais sot! Je pouvais me préparer à recevoir une raclée d'importance. Seulement, mon père se contenterait-il de me battre? Quel enfer allait désormais devenir mon existence auprès d'un homme dont les batailles bouleversaient parfois le quartier? J'eus un instant la pensée de fuir. Mais dans cette plaine sans relief, mon père pouvait me reconnaître à de longues distances. Je serais bien capable, aussi, par une malchance nouvelle, de me fourrer juste dans son chemin. J'errais au bord des vagues lorsque j'eus soudain une émotion d'espoir. Ce brave cheval nous aimait beaucoup. Donc, là bientôt de vagabonder par le désert des dunes et des tamaris, il me reviendrait. Puis, après tout, je n'avais qu'à attendre les événements en fataliste et à compter, dans le cas de la pire infortune, sur la compassion de mon père. Cependant, si Toutou ne revenait pas, aurais-je le courage d'expliquer moi-même ce soir aux deux chasseurs fatigués mes fantaisies de promenade? Rien que de m'imaginer cette entrevue, je tremblais de frayeur. Le plus simple encore était de me cacher jusqu'au moment où mon père aurait dissipé son premier courroux. Il n'y avait là que les ruines du fort qui pussent m'offrir un abri sûr, dans un des noirs créneaux où certainement personne ne soupçonnerait qu'un garçon de mon âge eût la témérité de se tenir réfugié dans une position de torture pendant des heures. Je ne me demandais pas si j'aurais assez de force pour monter là-haut. Non! La certitude de pouvoir au moins quelques instants me dérober aux coups et aux injures raffermit mon courage. En attendant, je m'installai à l'ombre de la voiture
à la place où ce polisson de toutou se roulait tout à l'heure, et je me mis à déjeuner. Malgré moi, je me détournais fréquemment dans l'appréhension de voir les chasseurs mécontents rentrer bredouille. Des barques passaient au loin sur la mer dans les fauves clartés de midi, inclinant leurs voiles qui étincelaient, pareilles aux coiffes blanches que les femmes de nos Cévennes portent les jours de cérémonie. Je vis passer un bateau noir qui répandait un lourd panache de fumée, et distinctement, tant la lumière était sereine, je le vis tanguer, pousser de l'avant, retomber en arrière, comme les socs de charrue qui labourent le sol. C'était grand, ce monde mouvant des eaux, aussi merveilleux que les cimes inaccessibles de nos montagnes. La lumière m'inondait le visage, m'emplissait de sa pureté et de sa joie. Sur les flots, dans l'espace d'azur et d'or, les goélands aux ailes argentées planaient, majestueux, puis brusquement plongeaient, et je les voyais ressurgir en poussant des cris, se rejoindre à tire-d'aile dans les touffes des tamaris. Et là, depuis des siècles, c'était la solitude divine, la mer qui, chaque jour, se retire sur cette plaine qui deviendra limon et nourrira les hommes. Y avait-il eu jamais là un enfant plus malheureux que moi? Qu'allait-il devenir? Je me retournais 100 fois vers la plaine, si fort déconcerté que mon cœur se déchirait. Toutou ne revenait pas. On nous l'avait déjà volé, peut-être. Je me sentis pleurer à plusieurs reprises, malgré mes efforts de volonté. Une fois, j'ôtai mes mains du visage, lorsque je découvris sur les flots une voile, une embarcation qui grandissait, un homme manœuvrant ses rames avec souplesse. L'homme se leva dans sa barque, qui tressautait, inquiète et nerveuse. Il replia sa voile, puis reprit ses rames. C'était notre vieux matelot. Je me sauvai vite dans les ruines du fort. M'accrochant à des pierres en saillie, je grimpai sur un créneau à la hauteur d'un deuxième étage. Je ne bougeais plus, accroupi, tourné vers la mer, dont la robe changeait de couleur. Elle était mauve, parsemée de fleurs d'or, de pierreries blanches. Il devait être 4 heures. La chaleur se faisait moins brûlante. Le matelot, cependant, tirait sa barque sur le sable. Puis, saisissant son panier d'osier rempli de poissons, il s'avança vers la voiture. Naturellement, il fut ahuri de ne pas me rencontrer. J'eus la force de rire de son étonnement et de sa simplicité. Du reste, il n'insista guère. Patient et sage, il remporta son panier, étendit son filet rougeâtre sur le flanc de sa barque couchée, puis, le front sous le béret, se mit en sifflotant à ravauder une culotte. La lumière abandonnait le paysage. Il y eut sur la mer, qui parut se troubler, la flamme poudreuse du couchant. De petites vagues pressées et écumantes frémissaient, la verdure des tamaris s'éteignait. Au loin, les collines avec leurs olivettes s'effaçaient dans une estampe bleuâtre, tandis qu'autour de moi, le sable affectait le teint gris du sol d'un cimetière. Le silence était si profond qu'on percevait le frémissement de chaque vague. J'entendis soudain des voix humaines. Un point noir se détacha sur le fond des dunes. C'était mon père et son ami qui arrivaient à grands pas, perdus dans le soir sonore, parmi l'immensité. Parlant, gesticulant avec abondance, ils avaient l'air d'échanger leurs projets habituels de commerce ou de promenade. Ah, quelle frayeur je ressentis! Moi qui, déjà, m'étais un peu résigné à mon sort, comme si l'attente dans l'abri de cette ruine eût dû éternellement durer. Mon père marchait vite. Je vis sa grande taille, sa tête rousse de Gaulois aux moustaches touffues. Il soufflait, son costume était couvert de poussière, son chapeau placé de travers sur l'oreille. J'eus peur. Je me pelotonnai dans l'échancrure de la muraille et les paroles des deux hommes me parvinrent précises. Ah, qu'ils étaient contents! « Nous reviendrons jeudi prochain chasser les lièvres, » disait Rouquier. « Nous verrons ça. Seulement, c'est le petit qui ne doit pas s'être amusé. Mais où est-il? Octave !» Mon père, anxieux déjà, me cherchait sous la voiture. « Où est-il? Octave !»« par exemple !» gémissait le gros Rouquier. Le vieux matelot, sur ses entrefaites, s'avança avec son flegme d'habitude en portant le panier de sa pêche. Mon père l'interrogea. « Tu dois savoir, toi, où est passé mon fils avec le cheval. Où est-il allé, ce gredin ?
Ma foi, je n'en sais rien. Je vous apporte le poisson que vous m'avez commandé.
Ton poisson ? Ah, que je m'en moque ! Où est le petit ?
Je l'ai aperçu de la mer à mon retour. Ensuite, après que j'ai eu replié ma voile, il a été parti. Tout ça, d'abord, ce n'est pas mon affaire.
Mon père, sans répondre, chercha dans les environs, pénétra même dans les ruines du fort. Le soupçon, parbleu, ne lui vint pas que je fusse caché dans les pierres comme un hibou. Et toujours il criait, les mains en porte-voix, dans le calme de la plage que parcourait la sourde rumeur de la mer.
Octave ! Octave !
Le matelot, son panier à la main, le poursuivait de ses lamentations. Mon père, agacé, le rabrouait en vain, et dans une autre occasion, cette pantomime m'eût fait rire.
« Ah, ce brigand d'Octave ! Si je le tenais, il passerait un mauvais quart d'heure !»«
Bah ! Répétait Rouquier, tu penses bien que ton fils ne s'est pas noyé. »«
Qui sait ? Il m'aura encore désobéi en faisant baigner le cheval. »
Non, il s'ennuyait, il a décampé vers Portirague, et à cette heure, il ne retrouve plus son chemin. Tu comprends ?
Je commençais à me fatiguer dans ma cachette. Comment tout cela finirait-il ?
Je désespérais de résister plus longtemps à ma position de forçat lorsque j'entendis mon père, qui s'était rapproché de Rouquier, lui dire du ton résolu d'un homme qui a pris son parti des choses les plus invraisemblables « Toi, Rouquier, tu resteras ici. Le pêcheur va te donner son poisson, mais à la condition qu'il m'accompagnera au hameau. »«
Volontiers, » fit le vieux matelot.
Les deux nouveaux camarades s'éloignèrent. Rouquier, contrarié d'être laissé seul au milieu du désert, maugréa, tourna mollement autour du fort.
« Que diable, bougonnait-il ? En voilà des manies de faire suivre partout cet innocent d'Octave. Quel emplâtre d'enfant ! Il se sera noyé. Il est si bête !»
Le brave Rouquier paissait fameusement, je vous jure. Mais, ayant levé le front, il vit là-bas les deux camarades qu'il appelait de la main. Aussitôt, il s'élança pour les rejoindre.
Chapitre 3. J'étais donc rendu à moi-même. La mer, dans l'ombre, s'étendait couleur de cendre. Les vagues pesantes s'abîmaient sur le sable par brusques fracas. Un phare sur la colline d'Agde s'alluma, deux phares à l'embouchure de l'Hérault, puis quelques étoiles dans le firmament, et ces lumières firent l'obscurité plus réelle. Je descendis de mon cachot, non sans m'écorcher les doigts et les genoux. Je ne sais pourquoi, attiré peut-être par la tendresse de ces eaux qui maintenant gémissaient, j'allais toucher la vague qui me fut toujours caressante. Ensuite, à mon tour, je m'éloignai. L'épouvante m'étreignant à mesure que je m'enfonçais dans la nuit, je hâtai le pas. Le bourdonnement de la mer ne me parvenait qu'affaibli, pareil aux rumeurs d'une énorme ruche. Je me détournai pour la contempler une dernière fois. Elle avait revêtu sa robe de deuil, où çà et là frissonnait une moire d'argent. Mais au-dessus d'elle, je vis, comme dans un antre béant, se remuer des nuées orageuses. À Portirague, je ne m'arrêtai point. Pour éviter mon père, je pris à travers les vignobles un sentier qui rejoignait la route, dont les platanes marquaient les champs d'un large sillon noir. Ma précaution d'ailleurs était inutile. Mon père, après avoir sans profit interrogé les gens du hameau, que la solitude et la pauvreté abêtissent, avait bravement filé, en compagnie de Rouquier, vers la bourgade du Vias. Là, il retrouva notre toutou, dont on lui raconta l'équipe folle, pendant que, pour se remettre l'esprit, dans l'inquiétude où il était de mon sort, il buvait du vin. Toutou, heureux de galoper sans entrave dans la plaine, s'était engagé parmi des fougères, où, brusquement, il s'était arrêté, stupéfait, au bord d'un marécage. Comme il était exténué, les paysans l'enfermèrent dans une écurie, avec l'espoir que son maître ne tarderait pas à venir le réclamer. Mon père, avant de le reprendre, dut payer les dégâts qu'il avait causés dans une vigne. Quant à moi, sur la route, je marchais précipitamment. 15 kilomètres jusqu'à Béziers. L'orage qui s'annonçait me laisserait-il le temps de les parcourir ? Le vent, plus chaud, soulevait la poussière en tourbillon, bouleversait les feuillages des platanes. plus d'étoiles au ciel. La terre, surchauffée depuis le matin, exhalait une odeur de fièvre. Je marchais dans une telle angoisse qu'il me semblait rêver quelquefois. La pluie tomba. Ses grosses gouttes saccadées m'effrayèrent davantage. Je courus, bien que la fatigue alourdît mes jambes et me mit comme un fardeau sur les épaules. La pluie furieuse me frappait le visage sans me rafraîchir. Alors, je cherchais à me réfugier sous un de ces pondils qui servent à relier, sur les routes, les fossés des vignes. Mais j'aperçus, à ma gauche, la ferme d'un laboureur. Bonté divine, une lumière brillait à l'unique étage par les jointures des volets. J'étais sauvé si le paysan consentait à m'accueillir. Une porte à claire-voie interdisait l'entrée. J'appelai, dans le fracas de la tempête, aussi fort que je pus. À mes cris éplorés, deux dogues sortirent d'un hangar et, comme des enragés, s'élancèrent en aboyant contre moi, contre la porte neuve qu'ils ébranlaient à coups de patte. Je reculai. Je m'assis sur la borne charretière, dans une attitude si humble, si lasse, que les dogues s'apaisèrent, comprenant peut-être que je n'étais qu'un enfant. Alors, avec un cliquetis de gâchette, la fenêtre de la maison s'entrebâilla. « Qui est là ?» demanda une voix d'homme. « Ouvrez-moi, monsieur, je suis fatigué, je ne puis passer la nuit ici, sous l'orage. »« Attends. » La conversation, vous le pensez, ne pouvait guère se prolonger dans le désordre de la tempête. La porte, enfin, ne tarda pas à s'ouvrir. Un homme, grand et vigoureux comme mon père, en présence duquel les chiens se turent, s'avança, muni d'une lanterne. M'ayant observé une minute par-dessus la claire-voie, lui qui avait l'habitude de juger les passants de la route, il m'accueillit. « Que fais-tu donc là, à cette heure? Qui es-tu ? » « Je suis le fils de M. Lafont, le marchand de grains. Il doit me croire perdu, car je viens de la mer. Laissez-moi coucher ici. Demain, je m'en irai. Allons, entre, tu me raconteras ton histoire. » Nous pénétrâmes dans la grange noircie par la fumée du foyer, mais propre. Pendant qu'il allumait un feu de sarment pour sécher mes habits, je lui racontai ma journée, pleine de bonheur et de malheur à la fois. Il m'écoutait avec un air triste et préoccupé. Parfois, il se dérobait à mes paroles pour s'approcher de l'escalier et là, au pied des marches, écouter avec attention les rumeurs de sa chambre, là-haut. « Je ne connais pas ton père, me dit-il. Seulement, je vois que tu ne mens pas, que tu appartiens à une famille de conditions supérieures à la mienne. Je t'aurais fait coucher dans un bon lit, moins bon sans doute que celui de ta maison. » Malheureusement, j'ai un enfant, plus jeune que toi, qui est malade, et je ne veux pas t'exposer à son mal contagieux. Ça ne te fera rien de coucher à l'écurie ? Oh non, monsieur ! Eh bien, suis-moi. Comme il ouvrait la porte, j'entendis sur la route le tapage précipité d'une voiture, le son clair des grelots semblables à ceux de Toutou, et des coups de fouet administrés à tour de bras, un charivari de galopade et de colère, une voix brutale que je connaissais bien. « Mon père » fis-je en reculant, épouvanté. « Eh bien, appelons-le. »« Non, non, j'ai trop peur, il me battrait, non !» La voiture, sous les eaux de l'orage, disparut rapidement dans les ténèbres. Mon brave paysan renouvela en un coin de l'écurie une couche de litière. Puis, après m'avoir recommandé de ne pas craindre son âne qui sommeillait là et de ne me déranger le lendemain que lorsqu'il viendrait me prévenir, il me laissa seul. Les nuits, en juin, sont si courtes. Je ne m'endormis qu'à la pointe de l'aube. Mon sommeil ne dura pas longtemps car le paysan, en ouvrant la porte si doucement pourtant, me réveilla. « Dors, dors !» me dit-il. « Non, je ne pourrai plus. Voici le jour, je pense trop à mon père. Si je ne me rendais pas à la maison, il me ferait rechercher par tout le pays. Inutile de l'exaspérer davantage. Si je n'étais obligé de veiller sur mon enfant, je viendrais te reconduire en charrette. »« Merci. » Je le considérais avec tant de tendresse qu'il se mit à sourire d'émotion, lui aussi, dans sa bonté. « Tu dois être extrêmement fatigué, mon garçon, » me dit-il en m'offrant à manger dans la cuisine, auprès du feu. « Tu devrais attendre qu'une charrette passât devant l'enclos. Elle te ramènerait en ville. » Non, voyez-vous, je ne vis plus que dans un cauchemar. Il me tarde d'être rendu chez moi. »
Le paysan m'accompagna jusqu'à la porte à claire-voie et je voyais qu'il hochait la tête en me plaignant beaucoup. Le jour, sur les campagnes, était voilé comme dans une chambre dont on a fermé les persiennes. Je marchais vite pour ne pas sentir le froid de l'aube. Le ciel, qui ne gardait aucune sensation de l'orage à peine dissipé, s'illuminait paisiblement. La terre sentait douce et frais. Du côté de l'aurore, les vignes luisaient et les oiseaux heureux pépillaient parmi les olivettes. Là-bas, après les tamaris et les dunes, là-bas, à la limite invisible du désert, il y avait la mer languissante et bleue. Oh, quelle joie j'aurais eu, un autre jour, de cheminer allègrement, seul dans le matin, au réveil de la nature familière, sur la route que la pluie avait faite rose, et qui, étant trempée comme un linge de lessive, ne rendait sous mes pas aucun bruit. Le canal glauque apparut le long de la route. Des chalands silencieux, que halait un cheval au moyen d'une corde, glissèrent sous les platanes. Je regardais la ville riche, s'étageant sur le raide coteau, se développant sur le promontoire qui domine la vaste plaine. Dès les premières maisons du faubourg, j'éprouvais une honte sans nom. Il me semblait que les gars, sur le pas de leur porte, riaient en me montrant du doigt. Notre maison se trouvait au sommet de la côte, entre le faubourg et la ville. Certes, je n'aurais jamais osé me présenter à l'improviste devant mon père. J'avais projeté de me glisser dans le magasin, de me cacher au grenier, et là, d'attendre un moment de calme, de bonne humeur, le repas de midi par exemple. Mais notre vieux domestique baguenaudait, les mains derrière le dos, au milieu de la chaussée. Je ne l'eus pas plus tôt aperçu que ses gros yeux aux sourcils menaçants se plantèrent sur moi. Puis, étant accouru, il me saisit par une épaule et m'entraîna. Il m'accablait d'invectives, ce vieux qui, en cette circonstance, me parut encore plus méchant que mon père. « Misérable, d'où viens-tu? On va te louer sur un bateau, puisque tu aimes tant la mer. Tu seras mousse. Enfin, on corrigera ton caractère. D'où viens-tu ?» Je ne pouvais placer un mot. Je suivis, en courbant la tête, ce domestique zélé dans le petit salon où nous prenions nos repas. Debout, le front à la vitre, j'attendais la venue du maître terrible lorsque j'entendis marcher là-haut avec un certain désarroi. « Eh bien, murmurai-je, mes parents ne sont pas descendus ?»« Misérable, ton père est malade. Ah, tu as de la chance. Viens !» Il m'emmena dans la chambre où j'entrai humble et confus. Ma mère, qui préparait de la tisane, poussa un cri en me voyant. Je crois qu'elle était aussi émue de me voir que de penser à la réception que me réservait mon père. Je m'approchai tout contrit, sans courage, du lit où celui-ci reposait. La volonté de notre maître était si ardente que je me sentis comme obligé de tourner mon visage vers le sien. Il agita son corps énorme dans les draps, il agita sa face rouge et moite que la fièvre brûlait. « Canaille » gronda-t-il d'une voix rauque. « Canaille !»« Écoute-moi, je t'en supplie, père !»« Canaille, tais-toi, je ne veux plus t'avoir devant mes yeux !» Ses yeux fixes me disaient sa colère et son mépris. Je sortis donc, sans que ma mère eût osé proférer une parole de pitié en ma faveur, et dans l'escalier, je me mis à sangloter. Qu'adviendrait-il après la maladie du maître? Eh bien, mon père ne me pardonna jamais. Sans doute, l'histoire que lui rapporta ma mère, des souffrances que j'avais endurées, des dangers que j'avais courus, le toucha au cœur, car il me reprochait rarement mon espièglerie devant le monde. Mais il fut longtemps à m'accorder un éloge pour l'application dont je redoublais à l'étude. Tant qu'il me considéra comme un enfant, il ne m'invita à participer à d'autres fêtes de famille que celles où assistaient mes plus petits cousins. Toutou, lui qui était le vrai coupable, reçut pendant 3 ou 4 mois, avec assez de philosophie, quelques coups de fouet de plus que de coutume. Quant à moi, vous comprenez que je n'oublierai jamais ma première promenade à la mer.